Seigneur, nous prions que tu nous conduises dans toute la vérité. Nous avons besoin de ta lumière encore. Maintenant, nous avons besoin de ta parole qui purifie le cœur, qui donne la vie à ceux qui sont morts, Seigneur. Nous nous attendons en toi, Seigneur. Toi, la lumière du monde, comme nous venons de chanter. Viens nous soutenir et nous fortifier au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il est ma justice.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus, en payant ma dette, a grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Oui, Seigneur, tu es notre sagesse et notre force. Merci de te révéler à nous, et que nous puissions écouter avec humilité pour croire et être transformés par toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler encore des maladies de l'âme. Dernièrement, nous avons parlé des maladies de l'âme liées à l'orgueil. Et aujourd'hui, nous allons parler des maladies de l'âme liées aux souffrances du passé. Nous lisons dans le psaume 103. Psaume 103. Il est écrit ceci. De David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà ce qui est écrit concernant l'âme. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc l'âme peut avoir des difficultés,
l'âme peut avoir des maladies. Et il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies de l'âme, des maladies qui agissent sur le caractère, des maladies qui agissent sur le comportement. Et on avait parlé des maladies liées à l'orgueil la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons parler des maladies liées aux souffrances du passé. Les souffrances du passé ont amené certaines personnes à être choquées, à être blessées. Et ça a défini leur comportement à venir. Ça a construit malheureusement leur fonctionnement d'avenir. Et vous allez voir quelqu'un qui a été trop pauvre quand il était jeune, ou bien à un certain moment, même quand il devient riche, il a du mal à dépenser, il a du mal à vivre en fonction de ce qu'il a. Il vit comme s'il était toujours affamé et pauvre comme autrefois. Les souffrances du passé peuvent donner une ligne à quelqu'un, des mauvaises lignes. Et c'est ce qu'on appelle des maladies de l'âme, c'est-à-dire quelque chose qui est resté dans ton âme, même si ton corps est différent, mais tu as un fonctionnement qui est long dans la durée, quoi. On peut tous pécher, on peut tous être pris de colère, mais il y a des gens qui vont avoir une tristesse qui est longue, ils sont tout le temps mélancoliques. Il y a des gens, des femmes par exemple, qui détestent les hommes en général parce qu'elles ont été peut-être violentées. Donc ce sont des maladies de l'âme, des traces dans notre âme qui nous donnent un fonctionnement qui nous enlève le bonheur, qui nous enlève la joie et qui nous empêche de servir le Seigneur. Alors, nous lisons dans Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. On peut même commencer à partir du verset 16. Il est écrit ceci. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà ce que le Seigneur dit. « Aujourd'hui, les paroles que vous venez d'entendre, qu'est-ce qu'il venait d'entendre ?» Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et nous savons que ceux qui pâtissent des souffrances d'autrefois ont en quelque sorte le cœur brisé. Parfois, ils peuvent beaucoup parler. Parfois, ils peuvent être exubérants, forts comme ça en apparence. Mais au fond, ils ont le cœur brisé. Et le Seigneur dit que l'Esprit m'a donné la puissance pour régler, donner la solution à toutes ces personnes qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a des maladies de l'âme, il a en quelque sorte le cœur brisé, le cœur choqué. Et le Seigneur est venu apporter, verset 19, la délivrance aux captifs. Ceux qui sont emprisonnés dans un système, emprisonnés dans un fonctionnement à cause peut-être du passé, à cause de l'environnement. Et le Seigneur est venu proclamer la délivrance à ses captifs. Et avant de continuer, il faut croire en cela. Si tu as des souffrances du passé qui ont déterminé ton fonctionnement actuel ou à venir, aujourd'hui, crois que Jésus a été oint pour te libérer de tout cela, pour guérir ton cœur. Donc, il faut mettre sa foi au Seigneur. Le Seigneur est venu pour cela. On se souvient de la femme qui souffrait de perte de sang. Cela faisait 12 ans. Il est écrit, elle se disait en elle-même, « Si je pouvais seulement toucher son vêtement, je serais guérie. » Et aujourd'hui, aie la conviction que si tu cries au Seigneur, il va te guérir. Nous lisons dans Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Alors je ne sais pas comment Jésus va te guérir, mais c'est possible. Nous avons cet exemple dans Jean 5 qu'on vient de lire. Cet homme, ça faisait 38 ans qu'il était malade. 38 ans. Donc il y en a qui peuvent se dire, mais moi ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il y en a qui disent toute ma vie. Oui, mais le Seigneur a la puissance, a la capacité de changer ta vie aujourd'hui. Que tu ne vives plus en fonction du passé, mais que tu commences une nouvelle vie. Nous nous souvenons de 2 Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur n'est pas venu améliorer nos vies. Il est venu donner une nouvelle vie. Il faut accepter cette nouvelle vie. Cet homme a pris son lit, il a marché. Il a cru en ce que le Seigneur a donné comme instruction. Et aujourd'hui, on peut changer. Il y a des gens qui ont été traumatisés dans le passé. Aujourd'hui, ils ont tout le temps peur. Mais le Seigneur peut guérir, te guérir de la peur. Que tu sois en paix. Mais maintenant, quand tu seras en paix, c'est à toi de ne plus replonger dans la peur. Maintenant, il faudrait garder la foi dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Cet homme a marché et les gens étaient étonnés. Nous lisons dans Luc au chapitre 8. À partir du verset 26, il est écrit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie,
ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. L'homme qui était devenu fou, qui traînait dans les cimetières, que l'on enchaînait comme un animal, vient d'être guéri par Jésus-Christ. Donc la guérison est possible. La délivrance est possible. On ne sait pas comment cet homme est devenu fou. Certainement, il y a eu des traumatismes sur lui. Peut-être qu'il y a eu une sorte de magie faite sur lui. Mais toujours est-il que il était fou à lier, comme on dit. Et le Seigneur le guérit, le libère. Il confirme ce qu'il vient de dire lui-même, dans Luc 4, 18 à 19. L'Esprit lui a donné la puissance pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont emprisonnés par une maladie quelconque. Et les maladies de l'âme sont très, très dangereuses parce que non seulement elles font souffrir la personne qui en pâtit, mais elles font souffrir l'entourage. Certaines maladies peuvent être un fardeau pour notre famille directe. Par exemple, si on a un handicap fort, c'est notre famille directe qui porte cet handicap. Mais les maladies de l'âme font que partout où nous allons, nous devenons un fardeau pour les gens. Nous devenons une difficulté pour les autres parce que notre comportement, notre fonctionnement empêche les autres de vivre bien aussi. Partout où nous allons, nous devenons un poids. Et beaucoup disent, mais oui, mais comment des chrétiens peuvent encore traîner des maladies de l'âme? Nous allons le dire et expliquer tout à l'heure. Quand on vit en Christ, beaucoup, certains plutôt, ne viennent pas totalement. Ils ne capitulent pas. Tout le monde ne capitule pas. Vous savez, la bonne conversion, on la voit chez Zachée. Zachée, quand il vient à Jésus, il lâche tout. Il lâche tout. Il dit, mes biens, je les donne aux pauvres. Et ceux à qui j'ai volé, je rends, fois quatre. Et il devenait quelqu'un de différent. Mais beaucoup viennent en Christ dans le but d'avoir le ticket pour aller au ciel. Ils ne viennent pas désespérés et ne sachant que, n'ayant que Jésus comme solution. Ils viennent prendre un ticket pour le ciel tout en gardant une bonne partie de leur personnalité, de leur mentalité, considérant ça comme une sorte de richesse, en gardant aussi un peu de leur passé, considérant ça comme une richesse. Or, l'évangile est clair, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi, à cause du fait que certains n'ont pas tout lâché en venant en Christ, même si, parce que là, moi, je ne peux pas en juger, je ne suis qu'un humain, même si peut-être qu'ils ont le ticket pour le ciel,
mais ils n'ont pas une complète délivrance sur terre. Ils n'ont pas une complète guérison sur terre parce qu'ils n'ont pas tout lâché. Vous savez, le salut, c'est ce que Pierre a fait quand il se noyait. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il a crié. Donc, il n'avait que le Seigneur comme solution. Beaucoup n'ont le Seigneur comme solution seulement pour aller au ciel. Mais n'ont pas le Seigneur comme solution pour vivre avec leur femme, pour vivre avec leur mari, pour gérer leur argent. Le Seigneur n'est plus solution dans beaucoup de détails de leur vie, dans beaucoup de domaines de leur vie. Il est juste solution pour aller au ciel. Juste solution peut-être pour un problème de colère qu'on veut régler, on vient au Seigneur. Ou bien un problème de maladie. Mais est-ce qu'il est solution pour tout? Non. Et c'est à cause de ça que nous sommes obligés d'en parler au milieu des chrétiens. Pourtant, les chrétiens auraient tous dû vivre 2 Corinthiens 5:17. Celui qui est en Christ devient nouveau. Il n'y a plus rien d'ancien. Mais ce n'est pas le cas parce que tout le monde ne se livre pas entièrement. Et c'est ça que nous devons corriger. Alors, nous venons de lire 2 cas des gens qui ont souffert dans leur passé. Longtemps, longtemps. Je donne ces cas-là exprès. Un cas, on a dit 38 ans. L'autre, c'est plus de 5000 démons qui étaient en lui. Toute une légion. Il est devenu fou. Donc, j'ai donné 2 cas extrêmes pour nous encourager dans le fait que nous pouvons croire que le Seigneur peut nous guérir de notre passé. Le passé de chacun n'a pas été facile parce que nous sommes sur terre. Les hommes sont mauvais. Ils ont le péché. Et quand on est faible, les hommes vont nous faire du mal. Encore si on est fort, on peut se défendre. Mais aujourd'hui, même les forts subissent un certain tort de la part des hommes. On peut être président. Vous voyez, quand vous entendez le journaliste parler du président, vous ne faites que rigoler. Donc le président aussi souffre. Le monde étant mauvais, quand on est faible, on va subir des difficultés liées à ce monde. Donc le passé de nous tous n'a pas été facile. Parce que notre passé, c'est aussi notre faiblesse, notre enfance, notre jeunesse, parfois ignorance. Il y a un temps où on ignorait des choses. Après, on a su. Mais il y a un temps où on ignorait. Et pendant qu'on ignorait, les gens nous ont fait du mal. Personne n'a eu un passé facile. Parce que nous sommes entourés des hommes pécheurs. Mais certains passés, certaines personnes dans leur passé ont connu des événements qui ont été des traumatismes, des chocs dans leur vie et qui les ont marqués. C'est de ces personnes-là qu'on parle. On ne parle pas de tout le monde. On parle des personnes qui ont été marquées par des traumatismes. Parfois sans s'en rendre compte aussi. Hein. Mais leur comportement aujourd'hui, pour ceux qui ont le discernement, ils voient bien que leur comportement est lié à ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils ont été avant. Et c'est des maladies de l'âme. Les souffrances du passé, les persécutions du passé peuvent déterminer le comportement de quelqu'un. Et ce n'est pas bon, parce que le Seigneur veut qu'on soit une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a les chocs qui ont altéré le comportement, mais il y a aussi la durée. Il y a des choses qui ne sont pas des chocs en soi. Mais quand ça dure, ça finit par devenir un traumatisme. Vous imaginez que pendant 8 ans ou 10 ans, à chaque classe que vous changez à l'école, on vous surnomme à peu près de la même manière. Vous finissez après 10 ans, 8 ans, par vous identifier à ce surnom. Et ça peut créer des traumatismes. Pendant 5 ans, une marâtre ou bien le mari de votre mère vous maltraite d'une manière donnée. Pendant 7 ans,
même si l'événement, chaque point n'est pas un choc en soi, mais avec le temps, comme ça devient long, ça peut créer un choc. Pendant 8 ans, un parent qui ne cesse de vous dire que vous n'êtes pas intelligent, même si le premier jour n'a pas été un choc, mais lorsque ça devient long, on finit par être conditionné par ces phrases-là. Mais t'es pas intelligent, t'es pas intelligent. Et certains ont maintenant un manque d'assurance. Quand il faut faire quelque chose, ils ont un manque d'assurance parce que on leur a dit souvent, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Ça leur a enlevé l'assurance. Il y en a aussi qui ont repris peut-être 3 fois une année. Tu as repris en classe 3 fois la même année. Et ça fait perdre l'assurance. Toujours est-il que beaucoup d'événements de souffrance, de persécution du passé, des difficultés du passé, peuvent déterminer notre comportement à venir. Et le Seigneur vient de nous le dire dans Luc 4, Dieu l'a oint pour libérer tous ceux qui ont ces problèmes-là. Il est venu libérer les captifs. Nous devons croire en cela. Et ces conséquences-là dans la vie des gens peuvent être fortes et durables, de sorte qu'après parfois même des années de vie chrétienne, on retrouve la personne toujours avec ce problème-là parce que ce n'est pas encore dégagé. Et nous allons nous ramener à la délivrance du Seigneur, nous poser des conditions, poser des jalons, des chemins pour que chacun puisse bénéficier de ce que le Seigneur dit dans Luc 4, 18, 19. L'Esprit m'a oint pour libérer. Les souffrances du passé ont existé pour nous tous, mais elles ont laissé beaucoup de traces dans certaines personnes. Et déjà rien que ça, que ces personnes-là comprennent qu'elles ne sont pas les seules à avoir eu à souffrir. Donc c'est tout le monde qui a eu à souffrir puisque nous tous, dans notre passé, on a été faibles. Et dans notre faiblesse, il y a des gens qui ont abusé de nous d'une manière ou d'une autre. En commençant par Satan lui-même, d'une manière ou d'une autre. Donc puisque tous nous avons eu à souffrir, que ce soit déjà un élément pour ceux qui gardent encore les blessures, pour dire, bon, je ne suis pas le seul. Alors si les autres ont accepté le salut du Seigneur, la délivrance et la paix de Dieu que moi aussi j'accepte une fois pour toutes. C'est un premier élément d'encouragement pour en sortir. Et fondamentalement, là maintenant je reviens sur les chrétiens. Fondamentalement, qu'est-ce qui nous bloque? Parce que la question c'est, mais pourquoi en parler au milieu des chrétiens? Mais parce que certains sont encore bloqués. Fondamentalement, qu'est-ce qui nous bloque? C'est que nous avons gardé soit une certaine colère vis-à-vis de Dieu, soit de l'incompréhension. C'est-à-dire, quand on regarde dans notre passé, on dit, mais comment ma mère a pu laisser son mari me faire telle chose? Comment Dieu, voyant ça, n'a rien fait? Comment mon père est mort alors que j'avais 8 ans, 10 ans, 11 ans, tout ce qu'on veut? Mais notre passé produit une incompréhension en nous par rapport à ce que nous pensons de Dieu lorsque ça vient, quoi. Donc, dès que ton passé vient, il y a comme un conflit avec le fait d'accepter que Dieu est bon, juste, il connaît tout et tout puissant. Il y a comme un conflit. Tu te dis, mais oui, mais s'il est tout puissant, comment il a pu laisser un tel passé s'accomplir? Cette incompréhension-là, c'est ça qui maintient ces maladies de l'âme. On reste dans l'incompréhension. Et souvent, il y a une colère. Mais peut-être on n'exprime pas d'une manière claire cette colère parce qu'on est quand même enfant de Dieu et on ne veut pas se permettre de se fâcher contre Dieu, mais il y a la colère quand même. Il ne peut pas y avoir l'incompréhension sans la colère. Il y a une forme de colère qu'on étouffe parce qu'on a honte en tant qu'enfant de Dieu d'être en colère contre Dieu. Mais il y a une sorte de colère. L'incompréhension vis-à-vis de Dieu.
Mais comment a-t-il laissé faire ces choses-là? Comment? Et même si elles nous sont arrivées quand on ne connaissait pas Dieu, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver aussi quand on connaît Dieu, mais même si elles nous sont arrivées quand on ne connaissait pas Dieu, on se pose des questions. Pourquoi moi j'ai manqué des parents qui m'élèvent, des parents qui m'ont mis au monde, mais et que ce soit eux qui m'élèvent? Pourquoi il a fallu que ça soit dans un orphelinat? Comment Dieu peut-il permettre? Et là, on élargit, hein? On élargit le rayon. On dit, mais comment Dieu peut-il permettre que des enfants soient lâchés par leurs parents, aillent souffrir dans les orphelinats? Comment ceci? Comment Dieu a-t-il pu permettre la guerre dans mon pays? De sorte que, comme un monsieur m'expliquait, qu'il portait sa fille au cou. Lorsque la balle a atteint sa fille, et il n'a même pas su que la balle avait atteint sa fille, il a senti quelque chose de liquide qui le touchait sur le corps. Il a dit, mais ça vient d'où? Et quand il a regardé sa fille, elle était déjà morte. Bien-aimé, il y a souffrance et souffrance. De telles personnes sont marquées. Elles sont marquées. Et l'incompréhension peut être là. Nous n'accusons personne qui est dans cette incompréhension. Nous comprenons qu'on est des humains. Et quand on dit que Dieu est tout-puissant, il est bon, il est amour, c'est difficile à concilier avec le fait de porter un enfant, une petite fille qui meurt d'une balle comme ça. Mais cette incompréhension doit être levée par le fait que le Fils de Dieu lui-même a souffert. Qu'est-ce que ça nous apprend, le fait que le Fils de Dieu a souffert? Ça nous apprend que la souffrance est obligatoire sur la terre. Et cela nous a été dit déjà depuis longtemps, à cause du péché. À cause du péché, la terre est une terre de douleur. Alors, vous savez comment on a appelé Jésus dans Ésaïe 53? On l'appelle homme de douleur. Si le Fils de Dieu lui-même a dû souffrir, hein, vous savez le chant que j'aime, que j'ai chanté souvent, « Aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, on peut dire même à cause des souffrances, je ne puis expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. » Bien-aimé, je ne peux pas tout expliquer, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que Jésus a souffert. Fortement. On lit dans Ésaïe 53. Il est écrit ceci. Qui a cru ce qui nous était annoncé, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On parle de Jésus. Qui a cru que lui, c'était lui le Fils de Dieu? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, voilà ce qu'on dit de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Ce passage nous dit que Jésus était sans fraude, sans faute. Mais il a plu à Dieu de le laisser souffrir. Et on nous donne l'explication suivante, c'est qu'en souffrant ainsi, il prenait nos souffrances à nous. Donc le moyen que Dieu a trouvé pour nous enlever les souffrances, c'est les souffrances de Jésus-Christ. Donc Dieu n'avait pas le choix. Dieu est tout-puissant. Mais il ne peut pas changer son système. Son système, c'est que le péché entraîne la mort et la souffrance. La souffrance et ensuite la mort. Et l'homme a péché et l'homme ne veut pas revenir à Dieu. Donc la souffrance est présente sur terre à cause de ça. C'est le péché qui donne la souffrance. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son Fils afin de prendre toutes les souffrances sur lui et tous les péchés sur lui à la place des humains. De sorte que celui qui vient croire en Jésus puisse commencer une nouvelle vie. Alors, puisque le Seigneur a souffert ainsi, comprends, bien-aimé, que ton passé de souffrance est lié à la terre. C'est lié au fait que nous héritons d'une terre dans laquelle il y a le péché. Mais saisis aussi que le Fils de Dieu, qui, lui, était sans faute, parce qu'après tout, nous, on a le péché en nous. Quelque part, nous souffrons à cause aussi de nos propres péchés. Mais lui, qui était sans faute, a souffert à notre place. Donc, c'est que la souffrance est inévitable sur terre. Mais cependant, il y a une réponse à ça. La réponse, c'est la souffrance de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Puisque Jésus a souffert pour moi, je peux entrer dans une nouvelle vie maintenant, puisque lui, il a pris mes souffrances. Alors, pourquoi rester enfermé dans le passé? Levons cette incompréhension-là, que cette incompréhension soit levée. Ne nous permettons pas de juger Dieu. Ne nous permettons pas. C'est le péché plutôt qui a entraîné les souffrances sur la terre. Et Dieu a envoyé son Fils pour sortir les hommes de ce problème-là. Nous avions chanté tout à l'heure avec les hommes, « Bientôt il viendra le Seigneur. » Dans Apocalypse 21, c'est écrit, « Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur, il essuiera nos larmes. » Il y a un temps où la souffrance finira. Mais pour le moment, avant le retour du Seigneur, la souffrance est encore sur terre. Les difficultés sont encore là. Mais nous ne sommes plus obligés de porter ce fardeau-là comme autrefois. On peut prendre ce fardeau et donner au Seigneur. Il dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués, déchargez-vous sur moi. Matthieu 11, 28 à 30. On n'est plus obligé de marcher avec le fardeau sur le dos. C'est le jour où le Seigneur veut que tu oublies tes souffrances du passé pour entrer dans une nouvelle vie. Que cette incompréhension que tu as face à Dieu cesse au regard des souffrances de Jésus-Christ, son propre Fils. Que cette incompréhension cesse. Je pense que quand on était à l'école, quand on reçoit une note d'interrogation, 2 sur 10, on se blâme un peu. Mais quand on apprend que le premier a 3 sur 10, ça nous calme. Ça nous calmait, on se dit, ah bon? Donc, c'était difficile, l'interrogation. Mais aujourd'hui, quand tu vois tes souffrances, tu te dis, mais je suis le plus malheureux. Est-ce que Dieu, il me connaît? Est-ce que Dieu, il existe? Mais quand tu te rends compte que la souffrance est sur la terre, sur tout humain, jusqu'à toucher le propre Fils de Dieu, tu te dis, tiens, s'il y a quelque chose que j'ai à apprendre à travers tout ça, parce que le propre Fils de Dieu a souffert, c'est qu'il y a quelque chose que moi je dois apprendre. Je ne dois pas avoir une conclusion hâtive sur Dieu ou ni sur moi, mais il y a quelque chose que je dois apprendre. Pourquoi même le Fils de Dieu souffre? C'est d'ailleurs pour ça que Pierre n'a pas accepté quand Jésus lui a dit que le Fils de l'homme doit souffrir et finir par mourir. Oh, Pierre a dit, mais non, ne vous en déplaise, Seigneur, cela ne va pas arriver. Jésus, qu'est-ce qu'il a donné comme réponse à Pierre? Arrière de moi, Satan. Je suis obligé de souffrir si vous devez être sauvé. Moi, je dois souffrir. Vos souffrances, je dois les prendre. Si le Fils de l'homme a souffert, le Fils de Dieu a souffert, c'est que la souffrance sur terre est inévitable. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus obligé de porter cette souffrance comme un fardeau qui va définir, déterminer ton comportement. Parce que ton Seigneur, ton Sauveur a pris ça à la croix. Pourquoi on doit encore parler de tout ça? Parce que certains ont encore la haine, la colère des gens qui les ont persécutés autrefois. Ils peuvent dire dans mon bureau, ou bien avec le pasteur Davis, ou bien avec l'ancien, ils peuvent dire avec un frère ou une sœur, ils peuvent dire quand nous chantons, « Oh, moi j'ai pardonné !» Mais nous voyons dans leur comportement quelque chose qui continue à fonctionner, lié à ce passé de souffrance qu'ils ont connu. On sent qu'ils ne sont pas à l'aise. On sent qu'ils ne sont pas bien. Et c'est dû au fait qu'ils ont encore une certaine haine et colère contre ceux qui les ont persécutés autrefois. Et ça empêche qu'ils soient libérés totalement des conséquences de ces souffrances-là du passé. Ça empêche. Ils veulent se venger, en quelque sorte. Mais ils savent en même temps que le chrétien ne doit pas se venger. Et vous savez, tout ça est flou dans la tête. Hein. Ce n'est pas tout clair. On n'est pas bien. On a un comportement de répulsion peut-être face aux femmes, de répulsion face aux hommes. On a un comportement dans la société, au milieu des enfants de Dieu. On a un comportement. On ne supporte pas la critique. Il y a des choses. On sent qu'on a une maladie. Ce n'est pas clair. Mais dans bien des cas, c'est qu'on n'a pas encore accepté de tourner la page. On aimerait qu'il y ait une sorte de vengeance. On a même du mal à croire profondément que Dieu est juste. Parce que quand on voit nos persécuteurs, il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, mais regarde ces présidents-là, ils sont bien, ils sont à l'aise. Pendant qu'ils volent, ils persécutent leur peuple. Mais Kadhafi a fini comment? Quand on observe nos persécuteurs du passé, on dit, mais comment il peut être bien alors qu'il a fait tout ce qu'il m'a fait? Toutes ces questions-là
liée au manque de pardon, liée à la haine et à la colère vis-à-vis de nos persécuteurs, nous empêche d'entrer dans une nouvelle vie. Le Seigneur dit dans Marc 11, 25, « Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus vous-même pardonné. » Puisque le système de Dieu, c'est le pardon. Comment nous sommes venus à Dieu? Parce qu'il nous a pardonné. Il dit, moi, mon système, chez moi, je suis amour. Je veux pardonner à tous les humains. Donc, quand nous, on vient accepter le pardon de Dieu et qu'on refuse de pardonner aux autres, c'est comme si nous rejetons Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, vous ne serez pas pardonné parce que vous rejetez, en réalité, mon système de fonctionnement. Donc, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc, si nous, nous voulons célébrer Dieu pour notre pardon, nous devons être capables de pardonner aussi aux autres. Entrer dans une nouvelle vie, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et vous allez voir une autre attitude, c'est que beaucoup de gens vont avoir un comportement dans la société qui, c'est comme si ils voulaient reconstruire, refaire leur passé. Ils ont eu une mauvaise mère, ils ont eu un mauvais père, et ils vont chercher un homme dans la société, soit le professeur, soit le pasteur, soit un frère, soit une sœur, qui veut, pour devenir comme leur mère, leur père, mais cette fois parfait. Et donc, ils ne vont pas supporter les moindres erreurs qu'ils vont trouver ces gens-là. Parce qu'ils veulent comme reconstruire un passé. Si autrefois, on leur disait qu'ils étaient nuls, maintenant, ils veulent s'entendre dire qu'ils sont bons, forts, beaux. Et à chaque fois qu'on ne va pas leur dire ça, ou bien on va leur dire le contraire, ça va réveiller les anciennes blessures, et ça va les replonger encore dans la maladie. Et c'est des personnes qui deviennent inquiètes, qui ne sont plus bien, parce qu'elles veulent s'entendre dire qu'elles sont belles, fortes, qu'elles parlent bien, qu'elles chantent bien. Elles vont vouloir récupérer comme le passé qu'ils n'ont pas eu, l'obtenir maintenant. Ils ont des maladies de l'âme. Ils veulent que les hommes soient gentils avec eux, parce qu'autrefois, les hommes ne l'ont pas été. Ils sont à la recherche de l'amour parfait. Mais chez qui? Mais chez les hommes qui ont encore le péché. Dieu dit, mais tournez-vous vers moi. C'est ça la solution. Donc pour tous ceux qui ont encore la haine, la colère de leurs persécuteurs, Dieu dit, il faut pardonner parce que toi, tu es venu en moi dans un système de pardon. Et à cause de ça, tu veux reconstruire comme un nouveau passé. Un ancien passé, tu veux le reconstruire dans le présent. Vous allez voir certains enfants qui ont été maltraités par leur père. Ils vont vouloir faire des choses extraordinaires pour prouver à leur père que maintenant ils sont bons. Ils traînent encore la maladie. Ils vont vouloir faire quelque chose. Parfois on se pose des questions, mais on ne comprend pas. Mais cet enfant, ou bien, voilà, cette fille, ce garçon a été maltraité par sa tante, par son oncle, par son père, par sa... Mais pourquoi il semble faible encore devant cette personne? En réalité, pourquoi il est encore faible devant cette personne? Parce qu'il voudrait que cette personne lui dise maintenant, tu es fort. Maintenant, que cette personne lui dise le contraire de ce qu'il lui disait avant. Et la personne reste faible. C'est comme un traumatisme. C'est elle qui me disait que j'étais nul, j'étais faible, j'étais zéro. Et on reste faible devant cette personne parce qu'on veut qu'il nous dise. Et parfois, il y a des comportements contradictoires. D'un côté, on peut être dans la colère contre la personne parce que quand le passé revient, on est en colère. Et de l'autre côté, quand on est beaucoup plus en paix, on fait tout pour plaire à la personne. Parce qu'on voudrait comme si que la personne guérisse ce que lui-même il a provoqué comme blessure autrefois. Mais Dieu nous dit non, c'est moi qui viens guérir ça. Comment tu peux chercher la guérison auprès de ton persécuteur? Cherche la guérison auprès de Dieu. Dieu peut guérir. Est-ce que quand nous partons chez le médecin, c'est le médecin qui nous a rendus malades? Mais dans les maladies de l'âme, on veut retourner auprès de la personne qui nous a rendu malade. Pour qu'elle nous dise de bien bonnes choses, pour qu'elle guérisse la plaie. Et alors, si on n'a plus la personne, peut-être qu'elle est morte, on veut que des personnes qui ressemblent à cette personne-là, dans la même autorité, dans la même apparence, nous disent les mêmes choses, nous guérissent de cela. Soit on veut que sa femme ou son mari nous dise la même chose. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu une mère attentionnée qui s'occupe vraiment d'eux. Ils vont vouloir que leur femme devienne une mère. Mais une femme ne peut pas devenir une mère. C'est ta femme, ce n'est pas ta mère. Et donc, ils vont se comporter encore comme des enfants auprès de leur femme parce qu'ils ont besoin d'une maman. Mais le Seigneur a dit dans Ésaïe 49, « Même si ta mère te rejette, moi je te recueille. » Dieu peut jouer le rôle de papa et de maman à la fois. De sorte que ça te laisse libre, toi, de jouer le rôle de mari et non d'enfant encore auprès de ta femme. Dieu peut jouer ce rôle-là. Ésaïe 49, 14 à 16. Si même ta mère te rejette, moi je te recueille. Psaume 27, 10. Ton père et ta mère te rejetteront, moi l'Éternel, je te recueille. Et il y a des gens qui veulent reconstruire leur passé par le moyen des humains, alors que Dieu nous donne l'occasion d'entrer dans une nouvelle vie où il est notre Père. Je ne suis pas, frère, en train de dire que Dieu ne peut pas utiliser les humains. Mais on prendra ça comme un cadeau de Dieu et non pas comme une solution. Les humains ne vont pas être notre solution, mais ils vont être le cadeau de Dieu. Dieu va utiliser des sœurs comme des mères. Il va utiliser des frères comme des pères. Mais ce n'est pas, nous avons notre relation avec notre vrai Père, celui qui a fait les cieux et la terre. Et ensuite, nous profitons des pères humains qu'ils nous donnent et nous comprenons leur imperfection. Mais ça ne devient pas une autre solution par rapport au mauvais père qu'on a eu. Notre solution par rapport au mauvais père, à la mauvaise mère qu'on a eu, notre solution, c'est Dieu qui peut être à la fois notre père et notre mère. Ensuite, nous pouvons apprécier les pères, les mères, les frères et les sœurs qu'il nous donne pour manifester sa paternité et sa maternité sur nous. Ne cherchons pas à reconstruire notre passé en utilisant les mêmes briques. Les mêmes briques, c'est les hommes encore. C'est les hommes qui nous ont déçus. Nous voulons reconstruire en utilisant encore des hommes. Non! Si les hommes nous ont déçus autrefois, construisons maintenant avec Dieu. C'est cela, bien-aimé. Et quand on a construit avec Dieu, nous pouvons être une bénédiction maintenant pour les hommes. Alors, quel que soit ce qui t'a traumatisé pour te donner des maladies, nous allons citer certaines situations. Les viols, la maltraitance, l'injustice, les séparations brutales, mort d'un parent, moquerie des autres, pauvreté forte, divorce des parents. Parce qu'on peut avoir ton propre divorce et le divorce des parents peut créer des choses. Hein, il y a plein de choses comme ça dans notre passé qui peuvent nous traumatiser, qui peuvent nous avoir traumatisés. Des études qu'on n'a pas finies, il y a des gens qui sont traumatisés aussi par ça. À l'époque, quand il fallait étudier, lui, il n'étudiait pas. Finalement, tous les amis ont fini, lui, il n'a pas fini. Et comme c'est les mêmes amis avec qui on partage la vie, on finit par être comme un cheveu dans la soupe lorsqu'on est quelque part. Chacun va se présenter, j'ai ceci, j'ai ceci. Toi, pour te présenter, ça te prend plus de minutes que les autres. Voilà. Et finalement, on est comme marqué, blessé, et on se sent inférieur. Ça, c'est le passé. Jésus nous donne le vrai diplôme. Le diplôme du ciel. Il ne faut plus vivre par rapport aux hommes. Il faut vivre par rapport à Dieu. Quelles que soient les situations qui t'ont blessé, qui t'ont traumatisé, qui t'ont diminué, les souffrances du passé, aujourd'hui le Seigneur te dit, tu peux vivre une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Alors, commence par lever l'incompréhension concernant Dieu. Dieu est juste et bon. Il est prêt à nous faire comprendre nos souffrances. Mais commençons d'abord par croire en lui. Il est prêt à nous expliquer des choses. Mais commençons par croire et l'explication viendra après. Regardons aux souffrances de Jésus et nous comprendrons que nos souffrances, c'est rien. Et en plus, Jésus les a prises à la croix. Regardons aux souffrances de Jésus. Prenons le livre de Matthieu, le livre de Luc. Lisons les trois derniers chapitres qui parlent des souffrances de Jésus. Observons cet homme-là et notre vie sera changée. Deuxièmement, bien-aimé, pardonnez. Pardonnez, parce que lorsque dans Hébreux 12, 15, c'est dit quand nous gardons l'amertume, ça produit des rejetons, ça produit d'autres, des pousses. Hein? Quand on garde ça, ça produit des pousses. Et l'amertume s'élargit et ça détruit notre vie. Il faut pardonner à nos persécuteurs parce qu'eux-mêmes ont été piégés par le diable. Il faut pardonner parce que nous aussi, nous avons fait des erreurs et Dieu nous a pardonnés. Il faut pardonner. Il faut pardonner parce qu'on veut entrer. On veut en finir avec ce passé-là. Il faut pardonner. Il faut passer à autre chose. Et puis, il faut arrêter avec une soif de vengeance, même qu'on se cache, mais on sait qu'il y a cette soif de vengeance. On voudrait tellement que Dieu frappe notre belle-mère. On voudrait tellement que Dieu frappe notre beau-père. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, déjà, quelqu'un qui fait le mal, c'est déjà difficile pour lui. Bien-aimé, faire le mal, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc nous, on ne va pas encore souhaiter qu'il soit frappé. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance appartient à Dieu. Souhaitons que ces gens-là se convertissent, soient sauvés. Troisièmement, bien-aimé, il faut qu'on saisisse la vie nouvelle. Nous devons oublier l'ancienne. C'est le plus important point pour nous, pour clôturer. Pourquoi ? Parce que Christ, normalement, nous a déjà guéri de tout ce qu'on est en train de citer comme problème. Mais pourquoi les gens n'expérimentent pas ça ? Parce que c'est écrit dans Éphésiens 4 qu'il faut revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, 21, 20, 24. Il ne suffit pas d'être chrétien, mais il faut porter cette veste de chrétien chaque jour. C'est comme ça que tu expérimentes ces vérités qui sont dans la parole de Dieu. Donc tu peux officiellement avoir le ticket pour le ciel, mais n'est-ce pas expérimenter la gloire, la délivrance, la paix de ceux qui iront au ciel. Parce que tu ne remets pas l'homme nouveau chaque jour. Il faut remettre l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance, par la vérité. C'est-à-dire tel que le Seigneur parle des choses dans la parole, tu acceptes ça. Tu pries dans ce sens-là, c'est comme ça qu'on revêt l'homme nouveau. Le diable te parle, toi tu prends la parole, tu pries. Et tu revêts ainsi l'homme nouveau. Et tu expérimentes ce qui est donné comme promesse aux hommes nouveaux. Il faut accepter la nouvelle vie. Nous avons des exemples dans la Bible. Jephté était le fils d'une prostituée. Et quand ses frères ont grandi, ses frères l'ont chassé de la maison familiale. Mais Jephté a accepté la nouvelle vie. Il est devenu quoi ? Un chef de bande, un chef de guerre. Mais pourtant, s'il était resté dans la maison, il serait quoi ? Le fils, le petit de beaucoup de frères. Donc on allait toujours lui donner des rôles du genre, va balayer, va faire ceci. Ce sont les grands frères qui allaient faire les choses. Mais quand il a été chassé de chez lui, Jephté a accepté la nouvelle vie qui se présentait à lui. Et il est devenu chef de bande. Plus tard, tous ses frères sont partis le chercher pour dire « Sois notre chef ». Parce que Jephté, en acceptant la nouvelle vie, il est devenu chef de bande, il a fait des guerres, il les a gagnées et les gens ont appris que Dieu se servait de Jephté et ils sont partis le chercher pour qu'il devienne leur chef. Est-ce que vous croyez que si Jephté était resté dans la maison familiale, il serait devenu chef un jour ? Non. Mais il a accepté la nouvelle vie. Acceptons la nouvelle vie que Christ nous donne. Cessons de chercher à reconstruire le passé. Entrons dans la nouvelle vie. Hébreux 12 dit, mais on a une carrière qui nous est ouverte, un chemin qui nous est ouvert en Christ. Allons dans ce chemin au lieu de vouloir reconstruire le passé, de récupérer les erreurs du passé, de récupérer les injures du passé. Non, entrons dans la nouvelle vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Quand Joseph a vu ses frères, nous donnons des exemples des gens qui n'ont pas été, vaincus par les souffrances du passé. Jephthé n'a pas été vaincu par les souffrances du passé. Joseph n'a pas été vaincu par les souffrances du passé. Quand il a vu ses frères, il a dit, mais non, ce n'est pas vous qui m'avez fait le mal. C'est Dieu qui a voulu que moi je vienne en Égypte pour vous sauver. Parce que Joseph est entré dans la nouvelle vie que Dieu lui donnait. Il a compris que à travers mes souffrances, Dieu me donne une nouvelle vie. Je saisis cette nouvelle vie et je suis béni. Il y a des gens bien-aimés qui sont devenus chrétiens, mais qui veulent à tout prix être en bon terme avec les gens, les membres de leur famille. Ils n'apprécient pas la compagnie des chrétiens comme une nouvelle famille. Et donc, c'est des gens qui sont écartelés, qui ne sont jamais heureux, parce qu'ils ne sont pas bien avec les membres de leur famille. Mais là où ils doivent trouver la consolation de se sentir en famille, ils disent, oh, mais ça, ce n'est pas ma famille. Mais la Bible dit que nous sommes des frères et sœurs. Et donc, ils n'entrent pas dans la nouvelle vie du Seigneur. Jésus a dit, celui qui rejette père, mère, femme, enfant pour me suivre, je lui donnerai encore plus de tout cela. Mais ces gens-là n'entrent pas dans ça. Ils sont encore charnels. On se pose même la question s'ils sont encore chrétiens. Ils sont chrétiens. Et ils sont malheureux. Ils sont partagés parce que d'un côté, ils ne s'entendent pas avec la famille qu'ils veulent, avec laquelle ils veulent s'entendre. De l'autre côté, ils n'apprécient pas la famille nouvelle qu'on leur donne. Ils n'entrent pas dans la nouvelle vie. C'est ça la réalité. Et ils ne sont pas heureux. Saisir la nouvelle vie, c'est important. Joseph l'a fait. Il a dit, je suis heureux que vous m'ayez vendu. Je suis heureux parce que ça, le plan de Dieu s'est accompli. Maintenant, je suis premier ministre. Bien-aimés, les souffrances du passé, Dieu les a permises pour des buts de gloire. Jean 9. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Alors, pourquoi tu as souffert? C'est parce que Dieu a voulu manifester ses œuvres dans ta vie. Voilà. Maintenant, pendant qu'il fait jour, saisis Jésus-Christ et entre dans la nouvelle vie de gloire délivrée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Ça, c'est Jésus qui le dit dans Luc 4, 18 à 19. Alors, nous, qu'est-ce que nous pouvons dire? Entre tes mains. Donc, c'est ce qu'on va dire au Seigneur. J'abandonne tout, mon passé, j'abandonne tout. Moi, je veux être une nouvelle personne. Je veux être une nouvelle créature. Je veux expérimenter ça. Alléluia.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Seigneur, t'en reprendre rien.
n'ai pas peur de te suivre.
Je n'ai pas peur de te suivre sur les chemins de la croix.
C'est pour toi que je veux vivre.
C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix.
Prends tout.
Oui,
I surrender,
Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Prends mon corps et prends mon âme.
Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur.
Oui, Seigneur, nous venons abandonner toutes choses entre tes mains. Les traumatismes de divorce des parents, Seigneur, nous abandonnons entre tes mains. Les traumatismes de divorce, nous abandonnons entre tes mains. Les maltraitances liées aux belles-mères et aux beaux-pères. Les échecs du passé, Seigneur, nous venons déposer ce fardeau sur toi. Les traumatismes liés au viol, à la mort de parents proches, les traumatismes liés aux moqueries des autres, à l'escroquerie subie de la part des humains. Le fait qu'on ait eu des parents qui nous criaient tout le temps dessus, Seigneur. Nous t'abandonnons tous ces traumatismes, Seigneur. Des parents parfois injustes, des professeurs injustes, des pasteurs méchants, Seigneur, nous t'abandonnons tous ces traumatismes. Merci de nous consoler, Seigneur. D'une vie de pauvreté extrême d'autrefois. Console-nous, Seigneur. Les traumatismes subis peut-être en prison, Seigneur. Des injustices des juges, de nos chefs au travail, Seigneur. Aide-nous à accepter la nouvelle vie. Aide-nous à accepter la guérison qui vient de toi.